Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
C'était dans la journée de lundi. Les 150 derniers soldats français ont quitté le sol malien. Pas dans l'indifférence, car nous en parlons ce soir, mais dans un climat étrange. 9 ans après le lancement de l'opération Serval, devenue Barkhane en 2013, pas de cérémonie. Pas de remerciements officiels de Bamako, comme si l'armée française était chassée du pays. L'opération militaire au Sahel n'est pas finie, mais ce départ du Mali est un tournant, la fin d'un nouveau chapitre dans l'histoire tumultueuse de la France en Afrique. Nous en parlons avec Antoine Glaser, journaliste spécialisé du continent africain. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce départ un peu triste était devenu inéluctable, il fallait partir.
Oui, absolument. Je veux dire, au bout d'un moment, on avait l'impression qu'on vivait dans une forme d'anachronisme historique. On voit bien que c'est pas simplement le départ de l'armée française, d'ailleurs qui reste quand même au Niger voisin, mais globalement c'est vraiment une période historique hein, qui se tourne. On parle toujours de l'armée française, mais ça fait quand même un bon moment qu'il n'y a plus d'occidentaux, en particulier de Français, depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. C'est l'ensemble des occidentaux qui quitte cette région. Il n'y a plus de coopération centralisée. Et donc, encore une fois, ce n'est pas simplement l'armée française voilà, qui quitte un pays, qui a des problèmes politiques avec la junte au pouvoir. Je pense que c'est vraiment une période historique que la France a cru qu'elle était encore un peu chez elle en Afrique pendant à la fin de la guerre froide. Et je pense que c'est un changement majeur, un peu une sorte de retour sur les côtes. Il y a encore une base extrêmement importante à N'Djamena, au Tchad. C'est vraiment le bastion de l'armée française. Mais globalement, on a l'impression qu'on voit que c'est plus une période historique que simplement un problème entre l'armée ou la France et le gouvernement junte malienne. Je pense que c'est l'ensemble de la zone qui est en train de changer.
Alors, il y a quand même un contraste assez fort. En 2013, le président malien de l'époque, le président ATT, Armand Toumani Touré, avait demandé à François Hollande de faire venir ses soldats. Les colonnes djihadistes arrivaient du nord vers Bamako. Et ce soir, on apprend que le Mali a adressé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU, lundi, lettre dans laquelle la junte accuse la France d'agression et menace de faire usage de légitime défense. Il y a une volonté d'humilier, non ?
Oui, enfin, c'est surtout que je pense que c'est assez stratégique, la junte malienne. En fait, sa principale crainte, c'est qu'à partir de pays voisins, en particulier, là, il y a encore des militaires français comme au Niger, ils ne veulent absolument pas qu'il y ait des drones français qui continuent à surveiller ce qui se passe au Mali. Déjà, ces drones avaient permis il y avait une sorte de manipulation des éléments de Wagner avec la junte malienne en disant que les Français quittaient le Mali mais laissaient des charniers dans le pays. Donc, c'est vrai que compte tenu de ses capacités aériennes, la France constitue, du point de vue de la junte malienne, une sorte de danger parce qu'ils peuvent continuer, même s'ils ne sont plus présents, à savoir qu'est-ce qui se passe et à continuer à contrôler un peu avec des drones et des moyens aériens. Donc il y a une sorte d'anticipation du côté de la junte malienne en demandant d'ailleurs au président au niveau de les Nations Unies, au président chinois, en disant voilà, en dénonçant déjà les opérations françaises qui continuent sur son territoire.
Et puis il y a aussi cette information qui interroge à Gao. Alors ce sont les Allemands hein, qui nous font parvenir cette information. Il y aurait des forces russes qui patrouilleraient dès aujourd'hui dans cette ville hein, où l'armée française était très implantée hein, ces 9 dernières années au Mali. C'est difficile de ne pas voir la main de Moscou derrière ce départ, je ne veux pas dire précipité, mais accéléré hein, de la France du Mali.
Ah ben c'est évident qu'il y a une coopération militaire russe extrêmement qui va devenir de plus en plus importante au Mali. De toute façon, c'est un pays traditionnellement qui a toujours une coopération militaire avec la Russie ou l'ex-Union soviétique. Et c'est pas franchement une grande surprise qu'un certain nombre de Russes, parce qu'on parle toujours de la milice Wagner, mais il y a aussi une coopération russe. avec des hélicoptères. Ils ont livré des hélicoptères. Il y a une présence russe extrêmement qui va devenir importante, mais dans l'ensemble de la région. Je veux dire, en ce moment, l'Afrique est en train de se mondialiser à la vitesse grand V, avec la guerre en Ukraine a aussi rendu le continent africain redevient totalement géopolitique, géostratégique, et c'est évident qu'à partir de là, les Russes peuvent installer tout ce qu'ils veulent sur la base de Gao, peut-être pour surveiller toute la région. Et là, on sent que j'aime pas trop, on peut dire, je suis pas un historien, dire c'est pas une nouvelle guerre froide, parce que finalement, ce sont quand même les Chinois qui contrôlent la majorité du marché africain. Mais on rentre dans une nouvelle période historique où la France seule, sans vraiment de soutien de ses partenaires européens, était relativement isolée et prend conscience que, l'Afrique a changé et on est dans une nouvelle période historique.
Et le renversement s'est fait quand même assez vite. En 2013, il y avait des manifestations où le drapeau tricolore était visible dans les cortèges. 9 ans plus tard, on voit, alors pas seulement au Mali, également en Centrafrique, des manifestations où on soutient l'invasion russe de l'Ukraine.
Oui, il y a deux choses. Il y a effectivement de la désinformation avec les réseaux sociaux russes qui instrumentalisent un certain nombre de réseaux sociaux de panafricanistes. Ça, c'est une chose, mais encore une fois, il ne faut pas non plus sous-estimer les sentiments anti-français d'une jeunesse qui a envie de parler un peu de l'histoire, de cette période post-coloniale, des indépendances jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et encore une fois, peut-être que la France n'a pas vu finalement cette Afrique se mondialiser, a cru peut-être trop longtemps se croire un peu chez elle en Afrique et se fait maintenant instrumentaliser par les Russes, au moment où il y a en plus une guerre en Ukraine, et on voit qu'on est dans une nouvelle période et qu'on a bien vu que maintenant le président Emmanuel Macron, au cours de sa dernière tournée africaine, dit la France ne veut plus être en première ligne, veut absolument venir simplement en soutien des armées africaines et ne restera pas là où elle n'est plus désirée et haute. Et on voit qu'il y a encore une fois, ça va extrêmement vite et ça a été accéléré par la guerre en Ukraine.
Alors, la France a perdu 59 soldats en 9 ans au Mali. Elle s'est impliquée. Elle a empêché la prise du pouvoir par les djihadistes qui déferlaient vers Bamako, on l'a dit, c'était début 2013. Que pouvait-elle faire de plus ?
Alors, elle ne pouvait absolument rien faire de plus. Je veux dire, quand on parle avec des généraux français de terrain, qu'on parle off, ils se sont bien rendus compte qu'après Serval, ils disent tous qu'à partir du moment où il n'y avait plus le soutien, que c'était la désintégration au niveau politique, culturel, dans toutes les zones, il y avait les États n'exerçaient plus de pouvoir régalien au niveau santé, éducation et autres. Ça a été remplacé maintenant dans un certain nombre de villages par une justice islamique et aussi par la zakat, les impôts dans un certain nombre de villages. Puis vous savez, on parle toujours de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans et également l'État islamique qui est proche de Daesh, alors que le GSIM, c'est plus Al-Qaïda. Mais en fait, la réalité, c'est que vous avez des tas de groupes armés qui s'entendent un peu avec ces djihadistes et qui sont en train de se créer des sortes de zones de contrôle économique avec des trafics en tout genre. Donc c'est plutôt une désintégration régionale et c'est pas simplement le djihadisme, c'est le trafic en tout genre qui domine dans toute cette région.
Donc la menace djihadiste est plus forte qu'il y a 9 ans ?
Oui, elle est bien sûr plus forte, mais il faut pas non plus croire qu'il y a que c'est pas simplement la menace djihadiste. Le problème, c'est la désintégration des États. Il y a déjà plus de ça fait longtemps qu'il y a plus de frontières et donc dans toute cette région sahélo-saharienne. Et donc c'est des groupes armés dans le nord qui se font des fiefs. Et encore une fois, il y a beaucoup de trafic. Et à partir de ce moment-là, c'est pas simplement du djihadisme, du terrorisme, même si, à l'évidence, il y a une islamisation radicale qui est en train de s'installer dans toute cette région, mais c'est une période historique qui est en train de changer. Il y a une période coloniale, post-coloniale, où il y avait des États qui avaient été créés en partie par la France. Ça, c'est en train de se désintégrer totalement.
Alors, quel avenir pour les forces françaises au Sahel maintenant ? On le rappelle, le départ, c'est du Mali, mais dans la région, l'armée française va rester. On en est à peu près à 3000 hommes aujourd'hui. La nouvelle base, c'est donc au Niger, Niamey. Comment, avec 3000 hommes, contrôler une région immense, incontrôlable ?
Non, mais il n'y a plus. Oui, non, mais déjà, franchement, déjà, de mettre 5 000 soldats français sur 5 millions de kilomètres carrés, c'était déjà mission impossible. Vous aviez 100 000 soldats américains sur 600 000 kilomètres carrés au temps de l'Afghanistan. Donc, ça, c'était déjà mission impossible. Mais il n'y a pas de volonté de la France de contrôler avec ses 3 000 soldats.
De la sécuriser, pardon, la sécuriser.
La sécuriser, voilà. Il y a 150 ou 200 soldats français qui seront en appui à des armées nigériennes à Niamey. Et vous avez la base importante au Tchad, parce que c'est bien l'armée tchadienne, c'est la seule qui est vraiment aguerrie. Mm-hmm. Et puis, il y a les bases des côtes. Je pense qu'il y aura un retour de la France un peu comme une période coloniale sur les côtes, où vous avez 1 000 soldats en Côte d'Ivoire, gens à l'ancienne 43e Bima, parce que une descente des djihadistes est sur au nord des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je veux dire, c'est encore une fois, je pense qu'il va y avoir une réorientation militaire de la France qui va plus intervenir seule dans cette région.
Voilà, et puis il faut rappeler que la France a également un désintérêt, en particulier au Niger, où Areva extrait de l'uranium, il faut le rappeler.
Oui, c'est Orano, mais en fait, ils ont trouvé de l'uranium ailleurs dans le monde, c'est Areva. Orano n'a moins d'importance qu'elle n'avait il y a quelques années.
D'accord. Bien, merci beaucoup Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique. Merci de nous avoir éclairé sur ce départ définitif des forces françaises du Mali. C'était lundi.